100% rugby. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur France Bleu Pays Basque pour votre émission, votre rendez-vous quotidien. Le pain quotidien, je dirais presque. Aujourd'hui, nos deux consultants sont concentrés visiblement sur leur téléphone. Nous avons d'un côté Yann Blanchard. Bonsoir Yann.
Bonsoir, je suis sans téléphone de mon côté.
Sans téléphone, exactement. Il n'y aura pas de triche pour le jeu. Et puis Benoît Caballero. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Alors évidemment, on va revenir avec vous sur les matchs qui ont été joués ce week-end en Pro D2, les matchs, les résultats de Top 14 et évidemment le gros sujet de conversation depuis samedi 19h, c'est l'arbitrage, la vidéo, pas vidéo et évidemment l'issue du match Stade Français Bayonne qui s'est joué à la dernière seconde sur une action jugée par beaucoup litigieuse ou en tout cas peu équitable. On va en parler dans tous les sens. On a la chance d'avoir Benoît Caballero qui est arbitre avec nous. Voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Je sais pas, vu la tête de Yann, si c'est une chance.
J'ai pas envie de rigoler aujourd'hui. Donc.
C'est vrai ? Bon, d'accord. Bon, alors on va rester sérieux et on va commencer tout de suite avec les résultats du week-end en Pro D2.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Alors, les résultats de Pro D2, c'était ce week-end dernier, la 27e journée de Pro D2. Et évidemment, on a eu des matchs à gros scores. Alors, je vais peut-être rappeler tous les scores qu'on a eu. Il y avait un Provence Rugby en ouverture contre le Stade Montois. Provence Rugby qui est en forme et qui a gagné avec le bonus offensif 46 à 22. Est-ce que vous avez regardé un petit peu tout ça ?
Ouais.
Alors ?
Ouais, après Mont-de-Marsan avait fait tourner sur ce match-là, donc Provence ne pouvait pas se planter. Provence va aller chercher la première ou la deuxième place pour s'éviter bien sûr un barrage. Ils étaient avec à la lutte avec Béziers et ils prennent un petit matelas de confort justement pour aller chercher cette qualif directe. Vannes aussi d'ailleurs. Et mais c'était bon un match où il y a pas trop d'enseignements à tirer tant Mont-de-Marsan avait fait tourner son effectif.
Mmh. Ah ça c'était en ouverture et puis ensuite, nous avons eu un Soyaux Angoulême Brive, 22 à 12, un score qu'on aurait pu attendre.
Ouais, Brive, c'est fini mal cette saison.
Vous avez bien commencé pourtant.
Hein. Ouais, mais ils ont été irréguliers toute la saison. À chaque fois qu'on attendait qu'ils raccrochent le bon wagon, ils l'ont rarement rattrapé. Et là, ce match à Angoulême, où Angoulême se sauve quasiment sur cette rencontre-là, Angoulême d'Alexandre Ruiz pour sa première au niveau professionnel, va réussir à se maintenir un peu plus aisément que la saison dernière. C'est parce que je dis du bien d'Alexandre Ruiz que tu m'as
dit. C'est pas sa première au niveau professionnel. Si tu suivais le rugby, il était à Montpellier avant.
Non, mais head
Allez,
coach.
Tu commences mal.
Head coach. coach en chef. C'est sa première ou pas?
Ben non, il était coach de la défense à Montpellier.
Head coach, manager.
C'est sa première.
Bon, merci.
Eh ben voilà, vous êtes d'accord, mais c'est merveilleux quand même d'être d'accord et de. Mais c'est ça qu'on aime à 100% en rugby, c'est ces petits accrochages là entre Benoît Caballero et Yann Blanchard. Ensuite, on a eu quand même un Stade Aurillacois Béziers qui s'est incliné à l'extérieur. Bon, Aurillac avait besoin de points. Béziers est plutôt en haut de classement, donc bon.
Ouais,
mais on attendait quand même peut-être autre chose de Béziers.
Ouais, résultat un peu surprise, même si Aurillac, avec cette victoire-là, va pouvoir là aussi finir le championnat en roue libre dans le milieu du classement. Mais Béziers, du coup, se retrouve à 5 points de la deuxième place et à 6 de la première. Donc ça suffira peut-être pas d'ici la fin de la saison pour justement s'éviter le barrage. Béziers qui fait partie des trois équipes en forme de ce championnat.
Ouais. Et en Pro D2, le week-end dernier, l'US Dax qui confirme sa très bonne forme avec cette victoire bonus offensif contre Rouen, 29 à 16. Bon, Rouen qui continue à se battre hein, malgré tout. Hein.
Ouais, ça a mis un peu de temps à se décanter du côté d'Aqua, mais c'est 5 points dans la besace. Il se retrouve 5e du championnat, c'est quand même assez énorme quand on sait... que c'est le promu, que les deux ou trois premières journées, ils n'avaient pas gagné un match, qu'on se demandait, même le président se demandait s'il fallait maintenir le staff, si les joueurs avaient le niveau. Et depuis, d'ailleurs, ces sorties-là, et bien, Dax fait un parcours quasi parfait. Il chute pas. Là, une nouvelle fois, il y avait un match où ben, on sait que Rouen ne lâche rien. C'était un match piège un peu parce que là, on les attendait au Dakois sur ce match-là. Et ils arrivent à avoir le bonus offensif. Et il y a le derby landais qui se profile. Et attention à nos amis Dakois.
Et oui, 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 ils sont chauds, les Dakois, ils sont chauds. L'US Montalbanaise qui n'y arrive pas à domicile. Voilà. Contre Van, alors évidemment, Van, leader de cette Pro D2. C'est compliqué à Montauban.
Mais bien heureusement pour le Biarritz Olympique, puisqu'on va parler, je pense, de la défaite après du Biarritz Olympique.
Oui, c'est en dernier. C'était le dernier match.
Oui, mais heureusement que Montauban chute. Montauban n'y arrive pas. À mon sens, n'y arrivera pas, vu le calendrier. Ça va être très très dur. Le tournant était là pour eux. En plus, avec la défaite de Biarritz, même si le match était après. Mais on les voit aller tout droit vers le barrage, voire même, attention, il n'y a que deux points avec le dernier. On parlait de Rouen. Attention à ce que Montauban ne soit même pas sur une descente directe. Donc c'est un monument du rugby qui repartira en national. C'est pas la première fois, puisque en tant que Bayonnais, on se souvient très bien qu'il y a eu une année où leur relégation administrative nous avait rendu service. Et à l'époque d'ailleurs, c'est l'époque où Anthony Biscay, notre consultant, avait signé là-bas. Donc est-ce qu'il signera là-bas la saison prochaine si jamais ça descend? On sait jamais.
Ouais, on avait toujours en Pro D2 ce week-end Nevers-Colomiers, et Nevers est resté maître sur son terrain du Pré-Fleury, 34-15.
Ouais, ça semble cuit pour Colomiers, pour la qualif. Ils sont à 8 points de la 6e place et maintenant
ils s'éloignent là. Hein,
maintenant qu'on arrive dans le sprint final, devant ça carbure, donc ça semble cuit. Et Nevers, malgré une nouvelle fois, on avait eu Benjamin Thierry deux fois qui nous parlait de, peut-être de saison de transition avec un effectif remanié, est toujours en course pour aller se chercher la qualif. Vraiment, il y a une grosse bataille entre de la 4e à la 7e place, et donc il y aura de l'expression, un cocu dans ce championnat, et reste à savoir qui va l'être.
Ouais, qui portera les cornes, on verra ça. En tout cas, il y avait aussi Valence Roman qui s'est imposé à domicile avec le bonus offensif contre le SU Agen, 38-21. Agen qui est le futur adversaire du Biarritz Olympique.
Ouais, c'est dur pour Agen dans cette fin de saison. Mmh. C'est terminé aussi. Ils finiront dans le ventre mou pour le maintien, c'est acquis. Je pense que leur seul et dernier objectif, ça va être la réception du Biarritz Olympique, vu les affaires qu'il y a eu en début de saison, plus les déclarations derrière côté Biarro, vis-à-vis notamment de l'ancien manager du côté d'Agen. Donc, fini en roue libre pour Agen. Voilà, là aussi le promu. Oui, je dis pas de bêtises. Le promu va se sauver. Les deux promus vont se sauver, et c'est pas chaque année qu'on peut dire ça. Et bravo à eux pour le boulot qui a été fait.
Et tout le travail, et puis on sent le collectif. Alors évidemment, il reste un match qu'on va évoquer dans quelques instants.
Ouais. Non, c'est juste pour savoir si t'es là.
Non, il médite.
Ouais, prépare-toi. Hein.
Biarritz Olympique Grenoble, on a suivi le match en direct sur France Bleu Pays Basque. Biarritz qui s'est incliné à Aguilera 19-46. On en parle dans quelques instants. Reste avec nous sur France Bleu Pays Basque. C'est 100% rugby.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby sur France Bleu.
Toute l'actualité, oui, de la Pro D2 et du Top 14 dans 100% rugby avec Yann Blanchard. Ça va, Yann ?
Ça va.
Bon, très bien. Benoît Caballero, se réveille.
Ça va aussi, oui, très bien.
Oui, parce que vous étiez calme jusqu'à maintenant. On est toujours avec la Pro D2.
Oui, très bien.
On est toujours avec la Pro D2. On a parlé de à peu près tous les matchs qui se sont joués le week-end dernier, sauf un. Biarritz Olympique Grenoble, 19-46. Le BO s'incline sur sa pelouse à Aguilera. Grenoble qui fait un gros coup en prenant un gros score et le bonus offensif. C'est compliqué pour Biarritz à la maison. C'est une saison qui est compliquée.
Ouais, j'aime bien avoir raison, et j'ai eu tort sur toute la ligne sur ce match-là, parce que j'avais dit qu'il fallait tenir en première mi-temps parce que le banc de Grenoble me faisait peur, et le match ça a été tout l'inverse, c'est-à-dire une première mi-temps catastrophique. Biarritz a pris des vagues dans le comportement, n'y était pas du tout. On a vu des trous dans la défense de partout, pas de repli défensif, pas de hargne,
pas de repère, rien.
Et en deuxième mi-temps, j'ai envie de dire ça allait un peu mieux, mais alors vraiment un tout petit peu mieux. C'est triste de voir le BO jouer de cette manière alors qu'ils sont en train de jouer le maintien.
C'est étonnant quand même parce que de semaine en semaine, c'est totalement différent, même en termes de défense, en termes d'attaque.
Très très différent, on les a vus très joueurs depuis que Manix est arrivé. Là, il n'y a strictement rien eu, ils ont été bouffés dans tous les compartiments. On est là, pour, bien sûr, France Bleu Pays Basque pour parler de Biarritz, mais juste un gros coup de chapeau aux joueurs aussi de Grenoble qui, malgré les points retirés, etc., se retrouvent quatrième du championnat. Ils seraient troisième même s'ils n'avaient pas eu les six points en moins. Donc, félicitations à eux. Mais du côté de Biarritz, c'est très, très inquiétant. Même si je m'évertue de dire que Montauban, il va tout droit, mais attention quand même. Et voilà, s'il y a juste un point positif.
Ils ont de la chance dans leur malheur.
Malheur que Montauban ne gagne pas et voilà, si je me suis permis d'ailleurs de lui écrire, si tout le monde avait eu la même envie et le même dépassement de soi qu'a eu Yann David sur ce match-là, voilà, ils auraient pas pris cette rouste-là. C'est dur, vraiment.
Il y a de l'usure aussi.
Ouais, c'est
l'usure mentale, l'usure physique.
C'est dur de le voir jouer comme ça et puis il y a rien qui va, c'est-à-dire je suis pas sûr que ça change quelque chose parce que il était arrivé en pompier de service, mais Simon Manix qui annonce son départ au Portugal 2 jours ou 3 jours avant le gros
tournoi. C'est pas futé, quoi.
Bah, même si on savait qu'il partirait sans doute, mais il y a des choses vraiment très très bizarres qui se passent alors que la saison
est loin d'être terminée.
J'ai pas de cabaye.
Si t'en penses, peut-être rien.
Mais parce que je trouve ça très très étonnant quand même de remettre ça. Forcément, en conf, t'en parles, entre joueurs, t'en parles. Enfin voilà, tu sais pas de quoi sera fait l'avenir, qui sera ton manager. Parce que oui, il est arrivé en pompier de service, mais rien ne nous disait qu'il allait pas continuer sa mission derrière si jamais il sauvait le club.
Oui, voilà.
Donc, moi je trouve qu'il y a rien qui va et ce match en témoigne.
Ouais, c'est des annonces pas très bienvenues. En tout cas, voilà, on sent ce collectif qui a beaucoup donné pendant toute la saison, cette équipe de Biarritz. Et là, voilà, on arrive en fin de saison, c'est dur. Le niveau aussi, c'est-à-dire que tout le monde cherche des points, hein, aussi, il faut pas non plus oublier. Ça joue de partout. Il y a ceux qui veulent sauver leur peau et puis il y a ceux qui veulent jouer le top 6, là. Donc, c'est des mondes qui se croisent aussi sur les terrains.
Oui, mais après je laisserai parler Benoît parce que sinon il sert à rien aujourd'hui. Mais il y a des
joueurs, t'inquiète pas.
Il y a des joueurs, où c'est très très décevant quand on annonce que Momo Awas jouera en top 14 la saison prochaine. Ouais. Quand on voit Pagès, Billy Searle, c'est quand même des joueurs qui ont de l'expérience. Je peux presque citer toute l'équipe qui a de l'expérience et qui est largement au niveau de cette Pro D2 et de ce club de Grenoble qui en plus avait fait un peu tourner quand même pour ce match à Biarritz. Donc ouais, c'est très étonnant, très déstabilisant et je suis très premier degré en disant ça, très triste de les voir comme ça sur ce match-là.
En tout cas, voilà, au classement de la Pro D2, c'est Vannes qui est leader avec 82 points. Derrière, il y a Provence Rugby qui est à un petit point, 81. Ensuite, troisième, Béziers avec 76. Grenoble avec 70. Dax, cinquième, on en a parlé. Beau cinquième, 69 points. Le Stade Montois, 68 points. Ensuite, on a Nevers, Brive, Colomiers, Valence-Romans, Aurillac, Agen, Soyaux Angoulême, Biarritz Olympique, donc, qui est 14e à 49 points, et l'US Montalbanaise, qui est à 45, et Rouen, qui talonne avec 43 points.
Tu vas parler de ton club, quand même, un peu, Benoît, qu'est-ce que
c'est? Bon, on va parler de la prochaine journée, peut-être, puisque, évidemment, ça commence ce jeudi, en ouverture, avec, le SU Agen, qui reçoit le Biarritz Olympique, Benoît. Alors, ça, c'est jeudi soir, à 21h, à suivre évidemment sur France Bleu Pays Basque. Ça va être chaud
parce qu'il y a un contexte, on le sait, avec la présidence, avec ce qui s'est passé en début d'année. Ça va être chaud parce que Agen va vouloir bien finir, même si mathématiquement ils sont pratiquement sauvés. Et ça va être chaud parce que Biarritz va devoir absolument
gagner.
Parce que sinon, t'es en danger jusqu'au bout. Donc il va falloir se rassurer tout l'entourage du Biarritz Olympique, oui.
Ouais. Yann ?
Oui, moi c'est elle.
Ouais.
Non, après reste à savoir si cette équipe d'Agen, même s'il y a tout le contexte, je rejoins Benoît, qui est favorable pour qu'ils sortent un gros match, est-ce qu'ils en sont capables aussi à ce moment-là de la saison? Ça fait deux matchs qui tirent vraiment la langue et qu'ils ont du mal. Ils ont perdu à domicile contre Angoulême, si je ne m'abuse, et là ils prennent une rouste du côté de Valence, donc c'est-à-dire deux petites équipes.
Il y a que 6 points hein, au classement entre Agen et Biarritz, hein, donc.
Ouais, mais entre Agen et Biarritz, mais du coup il y en a 9 9 avec le premier relégable. Donc
7 points, 7 points, pardon, j'ai mal compté.
Ouais, 7, donc 11 avec le premier relégable, donc ils seront maintenus. Et dans un même temps, de l'autre côté, il y a Montauban qui se déplace à Colomiers. Alors Montauban, je trouve ça très faible depuis de longues semaines, mais attention parce que Colomiers n'a plus grand-chose à jouer. Ils ont pris un gros pet derrière la tête, il n'y a plus rien à jouer. Ça fait longtemps que ça leur est pas arrivé à Colomiers de n'avoir plus rien à jouer si tôt dans la saison. Donc attention aussi au réveil de Montauban, même si j'ai du mal à y croire.
Bon, on verra ça. En tout cas, on va suivre cette 28e journée.
J'espère que tu as des arguments pour après, parce que là tu
il va parler pour l'aviron. Il va parler pour l'aviron.
Là, tu donnerais.
Agen, Biarritz, c'est ce jeudi à 21h en direct sur France Bleu Pays Basque. Et ensuite, ce week-end, on aura Grenoble, Béziers, Brive, Aurillac, Colomiers, Montauban, Provence Rugby, Valence Romand, Vannes, Rouen, Nevers, Soyons Angoulême et Mont-de-Marsan, Dax. Le derby, ce sera la dernière, le dernier match du week-end, vendredi soir, ce derby landais à 21h.
100% rugby, les infos du jour.
Alors d'abord, on va parler billetterie avec vous, Benoît Caballero et Yann Blanchard. Bon, samedi, il y a un Montpellier-USAP, un Montpellier-Perpignan. Et les supporters catalans sont pas très contents parce qu'évidemment, vu qu'ils sont très proches, ils comptaient venir en nombre à Montpellier. Et ils disent qu'ils n'ont pas pu avoir un accès vraiment libre à la billetterie pour le match. Montpellier nie avoir limité le nombre de places pour les Perpignanais, disant qu'ils ont privilégié plutôt les partenaires, les invités, les écoles de rugby, tout ça. Mais bon, voilà, ça fait un petit débat. Comment ça marche la billetterie pour les clubs visiteurs, Yann?
Il y a un quota de places réservé aux visiteurs. Par exemple, ça dépend de ta capacité du stade.
C'est pas 10%?
Ouais, je crois.
Non, c'est 5.
5. Non, je crois que c'est 10 en top 14. Mmh. Bon, bref. Bayonne, 13 500 places. Il y a 750 places.
Eh ben, c'est 5.
C'est 5.
Oui.
Ouais, pardon. 750 places pour le club adverse. Et ouais. Bon, la particularité de Bayonne, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'abonnés, si jamais le club adverse prend toutes ses places, il n'y a pas de billetterie. Donc, on n'a pas ce problème-là.
Mais à Montpellier, c'est pas le cas parce que c'est jamais un guichet fermé.
Alors, quoi dire? Est-ce que j'ai envie de te dire que c'est un peu bien joué de la part de Montpellier?
Ah oui.
J'ai envie de te dire oui. Il y aura quand même 4000 Perpignanais, de ce que j'ai compris.
Ouais.
Bon,
il y aura du monde.
Je les rassure. À 4000, ils vont faire vibrer le stade, vu comment c'est la mort du côté de Montpellier dans le stade au niveau de l'ambiance. Voilà. Moi, ce qui me dérangerait sur ce match, c'est si réellement il y a énormément de sièges vides. C'est-à-dire préférer avoir des sièges vides que des supporters, ça me dérangerait. Après, que Montpellier dans son intérêt, il joue le maintien, je rappelle, offre des places aux écoles de rugby,
oui, ça c'est bien,
plutôt que d'avoir des Perpignanais. Bon, c'est pas très fair play, mais j'ai envie de dire c'est de bonne guerre, et ça s'entend. Après, à Montpellier, qui a souvent son stade vide, de le faire pour chaque match et pas juste que contre Perpignan.
Attention, on va entendre Benoît Caballero.
Non, je rejoins tout à fait Yann, c'est ce que j'allais dire. Si tu empêches des Perpignanais de venir, il faut absolument que le ça soit à guichet fermé, sinon c'est une vente, quoi.
Eh ben, on verra, donc, ce samedi. Ça, c'était notre première info du jour. La seconde, on va parler des féminines, puisqu'en ce moment, se joue le tournoi à destination pour les féminines. Et on attend, samedi, le choc, le crunch entre les Bleus et l'équipe d'Angleterre. Le duel du Coq et de la Rose, qui se jouera à Bordeaux, au stade Chaban-Delmas. Et la Fédération Française de Rugby a annoncé ce matin que, déjà, quoi qu'il arrive, le record d'affluence pour un match de rugby féminin en France sera battu, puisque déjà 22 000 billets ont été vendus, sachant qu'à Chaban, on accueille 28 000 personnes. Donc bah, c'est plutôt positif ça pour le rugby féminin.
C'est une belle promotion, surtout que c'est le seul match valable de ce tournoi destination.
Elles ont écrasé tout le monde.
Donc ça veut dire que c'est 22 ou c'est 28, si jamais ils arrivent à 28 000, verront un vrai match de rugby féminin avec de hautes intensités.
C'est un crunch, en plus tu peux gagner le tournoi. Donc.
Ouais, tu peux gagner le tournoi. Bon, ce qui risque de ne pas arriver encore cette année. Mais on ne sait jamais sur un match.
Sur un malentendu. Sur un mauvais rebond ou un bon rebond. Donc ou un bon arbitrage.
C'est une super nouvelle pour le rugby féminin. Et une super nouvelle pour l'équipe de France qu'il mérite sur ce match-là contre l'Angleterre d'avoir un stade acquis à sa cause et dans un stade bondé.
Bon, en tout cas, ça c'était c'est ce week-end à Chabans et évidemment on soutient les Bleus de l'équipe de France, les féminines. Et puis troisième info, on connaît les affiches des 32e de finale de Fédéral 3. Donc on va notamment avoir des petites retrouvailles entre Vicam Bigorre et Emma Corr, hein, Emma Corr, l'entente Arcang-Bassu. Et puis les 32e et 16e de finale se joue en aller-retour. Donc toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale accéderont à la Fédérale 2 l'an prochain. Il y a de l'enjeu. Et toutes les rencontres se joueront en terrain neutre à partir des huitièmes de finale. Mais là, c'est à la maison. Et ce week-end, ce dimanche, décidément, le 28, c'est dimanche. Emma Corr reçoit Vic en Bigorre. Il y aura une fête, hein, puisqu'il y a un repas qui est organisé le midi avant le match au stade Mendy Bichta. Salade de thon, rôti de porc sauce moutarde, de purée de pommes de terre, tiramisu fruits rouges. Non mais on fait la pub parce que c'est important quand même. Sur les réseaux sociaux d'Emma Corr, vous allez trouver les numéros de téléphone pour réserver. Puis il y a la ressort qui va jouer contre les Baronnies. Alors j'ai pas réussi à trouver si c'est le match aller ici ou match retour le 5 mai.
Bon. Je vais pas t'aider, mais ce qui est sûr, c'est que l'ASB peut les aider, puisque c'est là où ils ont perdu le barrage le week-end dernier. Donc la ressort qui a un peu survolé cette poule de Fédéral 3, ben, se retrouve face à cette équipe-là. Et du côté des Macor, sans mettre du tout de pression, je suis personne pour en mettre, mais attention à cette équipe.
Ouais.
Je parle pour la montée, parce que Vic est une équipe qu'ils ont joué en phase finale déjà les années précédentes.
Ils se connaissent, ouais.
Ils se connaissent, mais ce rugby, quand tu commences à aller jouer des équipes comme ça, comme les Baronnies, comme Vic, etc. C'est des équipes massives et on sait qu'Emma Corr déplace énormément le ballon et peut faire très mal à une équipe comme ça. Voilà, le seul point négatif pour ce truc-là, c'est que c'est des matchs aller-retour, donc il va falloir aller là-bas au retour et ambiance garantie et surtout combat garanti quand tu vas jouer là-bas.
Bon, on verra ça, on va suivre ça de près, évidemment.
T'aimes pas, toi, le rugby amateur, hein,
c'est pas du tout, c'est pas ça. Mais très honnêtement, depuis ces dernières années, je ne comprends rien en phase finale. Et il y en a qui sont qualifiés en quart de finale, c'est sur terrain. Par exemple, moi, ce week-end, je fais un match de National 2. C'est quart de finale et c'est dans un club qui joue le quart de finale en National 2. Alors que là, on est sur des allers-retours en 32e. Il y en a, ils sont en quart en 32e. D'autres, ils n'ont pas commencé.
Ouais, c'est flou quand même.
Franchement, je ne comprends rien en phase finale. Autant ça m'intéresse les résultats. Mais alors, j'en perds le principe, quoi.
Bon. Il en perd son latin, c'est pas grave. En tout cas, on va en parler évidemment dans 100% rugby. Et dans les jours à venir, on va suivre ça de très près. On va jouer dans quelques instants au qui peut battre. Alors, si vous voulez participer, appelez le standard 05 59 2 fois 17 2 fois. Il nous faut deux participants. Et pour vous, on a un ballon de rugby. Et on a également deux places pour le match Aviron Bayonnais UBB qui aura lieu ce samedi à Jean Daugé à 17h. Voilà, il n'y a pas de place. Donc, il y en a sur France Bleu Pays Basque. Elles sont pour vous. Alors, appelez-nous pendant qu'on écoute Michel Sardou. Et on va jouer au qui peut battre. Nous avons avec nous tout d'abord, honneur aux dames, Jacqueline à Anglette. Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ça va.
Bon, très bien.
Un peu frais, mais ça va.
Oui, mais bon, on va réchauffer l'ambiance, vous inquiétez pas, voilà. On va jouer ensemble.
D'accord.
Et avec vous, ou face à vous plutôt, Nicolas de Bidart. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien, nickel.
Bon, parfait. Alors, honneur aux dames toujours. Jacqueline, vous voulez jouer avec Yann Blanchard ou avec Benoît Caballero ?
Blanchard.
Yann.
Blanchard. Okay.
Blanchard, ça c'est dit comme ça. Voilà.
Allez, Jacqueline.
Bon, mais Nicolas, vous
bonjour,
êtes avec...
Bonjour, Jacqueline.
Eh oui, vous êtes avec Benoît et ma foi...
Bonsoir.
Vous allez faire une bonne équipe. Bonsoir à tout le monde. Évidemment, je vous rappelle...
Nicolas compte que sur toi, de toute façon.
Oh, ça va le faire.
On a des jolis cadeaux pour vous, puisqu'on a un ballon de rugby France Bleu Pays Basque, et puis évidemment deux places pour le match Aviron Bayonnais Union Bordeaux-Bègle, qui se jouera samedi à Jean Daugé à 17h. Alors on va commencer avec une première question. Je vais vous demander une année. Vous ne pouvez répondre qu'une seule fois.
Oui. Alors, t'as fait la question, non ?
Alors, vous allez jouer, voilà, chacun à votre tour. Vous me donnez chacun une année, une réponse, et on voit. Voyez. Alors, on va parler du stade Chabandelmas. Je voudrais savoir, il est à Bordeaux évidemment, en quelle année a-t-il été construit ?
Attendez, Jacqueline, on les laisse répondre.
Oui, oui.
Alors, Benoît et Nicolas, une année. Voilà. Ouais, mais on se dépêche parce qu'il a le téléphone là, Nicolas. Alors une réponse là, vite.
1960
pour Benoît. Et le plus proche, évidemment, gagnera. Et donc, pour Nicolas et Benoît, 1960.
Jacqueline, est-ce qu'on dirait pas 1961 ?
Oh ! Allez, 1961, allez.
Alors, verdict, c'est 1924.
Oh là là, que t'es nul,
Nicolas et Benoît.
Est-ce qu'on peut avoir des questions rugby et pas architecture, s'il vous plaît ?
Ouais, ça, c'est histoire. C'est les 100 ans cette année de Chaban Delmas. Ils viennent de fêter les 100 ans du stade le 30 mars dernier, donc c'est pas rien. On va. En plus, vous avez internet devant la maison. Ah ben bravo.
Non, c'était.
Ouais, c'est ça. Attention. Je surveille s'il triche pas. Bon, on va quand même reparler de ce stade Chaban Delmas, puisque je voudrais savoir combien de personnes peut-il accueillir.
22 000.
Ouais, non, là, Nicolas l'a dit.
Jamais de la vie.
C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure.
Jamais de la vie.
On l'a dit tout à l'heure dans les infos
jamais
du jour.
Elle l'a dit tout à l'heure.
On l'a dit dans les infos du jour tout à l'heure.
L'info du jour est pas bonne.
Non, c'est pas 28 000.
Ah, si.
On l'a dit tout à l'heure, donc Nicolas.
Non, le stade Chaban Delmas, c'est 33 000 personnes.
Non, pas maintenant, parce qu'il y a un bloc qui est fermé.
Non.
Tu as perdu.
Mais non,
t'avais dit 28.
Ah, mais moi j'ai dit 28 tout à l'heure. Donc
voilà, victoire de Nicolas. Si.
Mais non, mais c'est pas possible, il fait 33 000 Chaban.
Bon, tu portes réclamation la semaine prochaine, si
je pose même pas.
Vous avez l'habitude d'avoir.
Tu poses la troisième, parce que
je pose la troisième question. On va chercher un joueur.
On joue tout là-dessus.
Non.
Ah non. Non. Je suis pas d'accord, Yann.
Le stade fait 33 000.
Non.
Le stade fait 33 000.
Moi, j'ai annoncé 28 000.
Oui, mais tu m'avais faux.
Eh bien, en ce moment, c'est 28 000, donc il contient 28 000 personnes là.
C'est pas les Bayonnais, là, qui se disputent, là. Faudrait un arbitre au milieu.
Bon, Jacqueline, on va porter réclamation.
Bon.
Réclamation.
Bon, mais Jacqueline, vous allez rejouer avec nous. Je vais poser des questions faciles les autres jours.
On remet tout sur ce match. Allez, sur cette question.
Non. C'est pour Nicolas.
Sur Bayonne, sur Bordeaux, on est
un peu. Oui, Jacqueline.
Et pourquoi Bayonne ? C'est 100% rugby, 100% Bayonne.
Je suis d'accord avec vous, Jacqueline.
C'est parce qu'on a parlé des féminines et de Chaban Delmas. Et puis Bordeaux, on va les recevoir ce week-end. À Bayonne.
Bon, mais chez Chili pose la troisième, on va gagner de toute façon.
Alors la troisième. Alors la troisième, on cherche un joueur.
Ah, ça y est, on va parler de rugby. T'es perdu là.
Alors on cherche un joueur. Il fêtera ses 41 ans le 4 juin prochain. Deuxième ligne, il a pu jouer aussi parfois troisième ligne. Il est né à l'étranger, mais je vous dis pas dans quel pays, sinon c'est trop facile. Il a joué dans plein de clubs. Au Stade Toulousain, à la section paloise, à Blagnac, à Montauban, à l'Aviron Bayonnais, à Pau, au Stade Français, Soyeau à Angoulême.
Qu'est-ce que je dis ?
Il a pris sa retraite en 2021.
Allez Nicolas, là j'en sais rien.
Allez, il faut proposer des noms. Allez, on y va.
Qui ça ?
Il a joué à Bayonne et il était très aimé du public bayonnais.
Deuxième ligne, troisième ligne.
Ouais.
Où était ? Non, putain, 41 ans, jamais.
Il habite toujours à Bayonne, il s'occupe d'une association.
Linde !
Boutati !
Non, l'autre.
Boutati !
Allez, c'est gagné, Jacqueline.
Non, c'est pas gagné.
Pardon, Nico.
Nicolas, vous aviez quelqu'un pour aller au match ? Parce que sinon, vous pourriez inviter Jacqueline.
Ah non, j'ai quelqu'un, désolé.
Allons donc, bon. Jacqueline.
C'est pour ma fille,
En plus.
Et encore une fois, une question rugby dans le quiz, gagné quoi.
Oui, mais en fait, si tu veux, je suis à 3 victoires d'affilée contre toi, sois pas vexé.
Et si vous voulez qu'on parle de Bayonne, on va clore le débat parce qu'à un moment, voilà. Je suis désolée pour vous, Jacqueline.
Non, mais c'est pas grave.
Il était pas en forme, Yann.
Architecture et histoire, c'est pas mon fort.
Bon, vous nous rappelez demain, je vais travailler un peu plus ces questions. Mais aujourd'hui, je revenais de vacances, donc du coup, j'ai fait un peu. Au début, je voulais même pas faire le jeu, pour vous dire.
C'était très bien.
Nicolas Abidar, ben bravo. Et puis, comment s'appelle votre fille ?
Sarah,
on fait un gros bisou à Sarah.
Merci
à tout le monde.
Avec plaisir.
Allez,
merci beaucoup.
On parle de l'aviron bayonnais, Stade Français, et on parle arbitrage dans quelques instants sur France Bleu Pays Basque. C'est 100% rugby.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Et ça parle. Il est 18h45 sur France Bleu Pays Basque. Évidemment, 100% rugby avec nos consultants du mardi, Benoît Caballero. Et puis, il a son siège avec nous dans ce studio. Yann Blanchard, on va parler évidemment de Top 14 et de ce match qui a fait écrire pas mal de monde. Il y a eu beaucoup de réactions. C'est Stade Français Aviron Bayonnais. C'était samedi dernier à Jean Bouin à Paris. le match qui s'est terminé sur une victoire sur le fil de Stade Français. Et tout d'abord, on va parler de ce match qui a été vraiment pour l'Aviron Bayonnais un match à deux visages, Yann.
Deux visages, une première mi-temps quasi parfaite, avec notamment l'essai juste avant la sirène, avec le carton jaune, où tu te dis que ça sent bon. Après, il faut être naïf pour croire qu'il n'y aurait pas de réaction du Stade Français, qui est premier du championnat en deuxième mi-temps. Et t'arrives à tenir jusqu'à l'infériorité numérique, la tienne. C'est-à-dire que toi, tu ne marques pas de points pendant qu'ils sont en infériorité numérique. Et eux marquent au bout de 30 secondes après le premier carton jaune. Ils remarquent d'ailleurs sur le deuxième carton jaune de la rencontre qu'ils sont beaucoup de fautes. Tu subis énormément, t'arrives pas à sortir de ton camp. Mais cette dernière action ultra polémique, c'est même pas polémique puisque à peu près tout le monde est d'accord donc sur le fait que
tous les Bayonnais sont d'accord.
Tous les consultants, tous ceux qui ont analysé. Ah bon, et qui, expliquez-moi qui a dit qu'il n'y avait pas de faute.
On va rappeler ce qui s'est passé.
Qui a dit qu'il n'y avait pas de faute? Je vais même citer quelqu'un que j'aime beaucoup puisqu'il est beaucoup plus soft que moi. Il s'appelle Thierry Dussautoir, qui à la mi-temps du match de dimanche dit, je comprends la frustration de Camille parce que rien ne va dans cette action. C'est-à-dire qu'il y a un plaquage sans ballon, le mec qui plaque sans ballon, il est hors jeu.
Ouais.
Et le premier grattage, il est sur le côté puisqu'il y a un mec qui arrive sur le côté avant que Makalou arrive. Donc, il n'y a rien qui va sur cette action. Il n'y a rien qui va. Tout le monde l'a vu. Camille Lopez et Thomas Seyt y vont. Camille Lopez, le premier réflexe qu'il a, c'est d'ailleurs de sortir Thomas Seyt pour lui dire, laisse-moi.
Ouais. C'est moi, Camille capitaine.
C'est moi capitaine, c'est moi qui vais lui dire. Il y a la question de Monsieur Nouchi, l'arbitre de cette rencontre, à l'arbitre vidéo. Est-ce que tu as vu quelque chose de déloyal sur le ruck où ils perdent le ballon? C'est ce qu'il me demande. Eh bien, il a pris à peu près une demi-seconde avant de répondre, Monsieur Marchat, notre ami, qui a répondu non directement, au lieu d'aller demander l'image à Canal+. J'en vois beaucoup critiquer le diffuseur. Il faut faire attention quand on critique le diffuseur, c'est-à-dire que un technicien vidéo, c'est-à-dire le mec qui est au ralenti, ou un réalisateur, il est bien sûr sensible au rugby, sinon il ne bosserait pas là. Mais ce n'est pas forcément un rugbyman ou un spécialiste du rugby. Mmh. Donc, en effet, quand un technicien ralenti voit par exemple un en avant que l'arbitre n'a pas sifflé, mais bien sûr qu'il va remontrer le ralenti parce qu'il l'a vu. Mais une faute de ce type-là, qui est quand même très technique, eh bien, c'est pas à l'opérateur ralenti de le voir, c'est à l'arbitre vidéo de le voir, déjà. Enfin, à l'arbitre, tout court, parce que quand on voit le plan...
Il est devant, à deux mètres,
il ne peut que le voir. C'est ensuite à l'arbitre vidéo et c'est ensuite faire preuve, se faciliter en fait le match. Se faciliter parce qu'il y avait un avantage sur un avant où il n'y a pas de progression, donc tu as juste à revenir sur cet avantage et derrière le match est terminé. Ou, eh bien, quand à la dernière seconde ça change l'issue d'un match, excusez-moi, quand l'arbitre central te dit est-ce que tu as vu quelque chose, attends, je vais aller voir. Et tu vas voir, et en deux secondes c'était terminé.
Ouais.
Mais terminé. Et je remets une couche sur Monsieur Nouchi, qui, au lieu de dire à son arbitre vidéo, est-ce que tu as vu quelque chose? Non, demande la vidéo.
Puisque le match se joue sur cette action et il reste que 15 secondes.
Et le match, je finis là-dessus avant de laisser parler Benoît, et le lendemain, le dimanche soir, on a vu un cinéma de l'arbitre central et de l'arbitre vidéo où la communication était claire comme jamais dès qu'il demandait un arbitrage vidéo. C'était le même l'arbitre vidéo demandait au réalisateur le numéro de la caméra. Alors, c'est propre au match du dimanche soir, j'en discute avec Benoît. Il n'empêche que sur les autres matchs, on n'entend jamais caméra 8, caméra 6. Non, on l'entend jamais. Donc il y a eu un cinéma. Donc là, on voit. Et d'ailleurs, quand on voit la déclaration de Monsieur Nouchi sur Ibirama, qui met en cause le diffuseur d'ailleurs au passage,
n'est
pas content du tout de cette interview. Et quand on voit aujourd'hui le communiqué des patrons des arbitres qui dit que c'est à l'arbitre à demander la vidéo et qu'en aucun cas c'est la réalisation qui doit faire de l'arbitrage vidéo, ça veut dire qu'ils contredisent M. Nouchi. Bon. Donc j'attends les prochaines nominations de M. Nouchi pour voir si réellement il est sanctionné sur ce match-là.
Alors Yann, évidemment, nous avons Benoît Caballero qui est arbitre. Alors Benoît, vous avez suivi toutes ces péripéties.
Bah déjà, je vais parler du match aussi parce que j'ai vu le match et je voudrais en parler. Première mi-temps, mais presque parfaite de l'Aviron Bayonnais.
Avec un essai refusé quand même à l'Aviron Bayonnais après que la transformation ait été passée et avec un visionnage au détail pris pendant très longtemps.
Logiquement, il y a eu un doute. Oui, mais l'essai refusé, il n'y a pas de souci.
Mais c'est normal.
C'est très bien.
Mais c'est ensuite bien de vérifier.
Ensuite, seconde mi-temps, je trouve qu'ils font. Techniquement, ils font pas une mauvaise mi-temps, sauf qu'ils font beaucoup de fautes parce que le Stade Français, qui n'a pas laissé de jouer en première mi-temps, est revenu remonter comme des pendules.
Donc ils ont dû se faire alpaguer dans les vestiaires
certainement,
aussi.
Certainement, ils ont fracassé Bayonne, qui a mal maîtrisé parce qu'il y a eu, déjà je crois en 10 minutes, il y avait 8 fautes. Bon, Voilà, ça en vient au joueur. Ensuite, sur notre dernière action, je crois que j'ai jamais dit non plus qu'il n'y avait pas faute ni rien.
Je t'ai pas gagné.
Non, mais tu gueules depuis 10 minutes, là. Mais effectivement, oui, il y a faute. Après, le déroulé, normalement, il y a des protocoles qui sont mis en place. C'est-à-dire, comme l'a dit Yann, le diffuseur remet des ralentis, mais il ne remet pas des ralentis à chaque fois. Donc, si l'arbitre a un doute, il peut demander la vidéo. Moi, ce qui m'énerve un peu dans cette polémique et tout, c'est que Yann, qui donne beaucoup de leçons à tout le monde, dit, par exemple...
Alors, je ne l'ai pas attaqué une seule fois.
Attends, on va laisser parler Benoît.
Quand un joueur, il y a une pénale touche, il y a une pénalité, veut aller en touche ou choisit les points, il est toujours en train de dire « Mais si ». Et là, il dit, lui-même, tu viens de le dire, « Mais s'il avait fait ça, s'il était revenu à l'avantage, mais s'il avait demandé la vidéo, mais si ». En fait, t'es à l'opposé de ce que tu dis. Et hier soir, je crois qu'il y avait...
Il est fou, ce mec. Mais je t'explique juste que rien ne va dans sa décision. Et toi, tu peux pas le dire et tu vas pas le dire. Rien ne va.
Mais est-ce que je t'ai dit que... En fait, c'est pas qu'il y a pas une... Il y a même pas de décision. Il aurait dû avoir une décision.
Oui, rien
il y a
va.
Pas de décision. Oui. Rien ne va. Mais tu es en train de
nous expliquer... Le problème, c'est qu'un match perdu, Benoît. Attends,
mais qui c'est qui perd le match? C'est l'aviron, c'est pas
l'arbitre. Non. Attends, pardon.
Ça. Alors
ça c'est...
Attends, c'est en train de dire, on a perdu le match parce que l'arbitre n'a pas géré.
Mais
qui gère pas le match avant?
Mais je te l'ai dit des dizaines de fois à l'antenne et des dizaines de fois quand on débrief hors antenne.
C'est pas parce qu'on n'est pas bon en deuxième mi-temps.
Tu peux prendre 92-0 à ce moment-là du match. Il y a faute. Point final.
Ce n'est
pas à vous, arbitre, à juger que.
Arbitre
dira des joueurs oui mais toi si t'avais bien poussé en mêlée tu serais pas pénal. Vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour faire respecter les lois du jeu.
Ah tiens, ben d'accord.
Vous
ben oui.
ne les avez pas fait respecter sur cette minute là, donc oui. Qui était devant à ce moment-là au score? Bayonne, oui, tu perds sur ce fait de jeu. Point
non,
final.
Tu perds sur une faute.
Oui.
Tu perds sur.
Oui.
Si vous estimez que y a, sur cette
non,
faute.
On estime
vous
pas,
perdez, mais excusez-moi.
Il y en a trois fautes.
C'est pas un essai de pénalité qu'il a mis contre vous.
Non, c'est la dernière. Arbitre d'ailleurs.
Non, mais il n'y a pas eu essai de pénalité.
C'était le même arbitre.
Pourquoi vous plaquez pas derrière ou quoi?
Mais ça ne vous regarde pas.
Mais toi, ça te regarde pas non plus dans ce cas-là.
Ah bon? Donc il y a pas de souci. Alors vous faites des erreurs qui.
Mais on fait des erreurs comme les joueurs font des erreurs. C'est Camille Lopez.
Mais vous avez des outils.
Vous
avez des outils pour pas faire ces erreurs. Vous avez des outils et on vous demande de les utiliser.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Est-ce que ça, je peux les reprocher? Est-ce que je t'ai dit qu'ils ont bien fait de pas prendre la vidéo ou ni rien?
Donc stop. Il y a même pas de débat.
Benoît.
Parce que peut-être aussi. Je vais t'expliquer. Quand on saute sur la gorge de l'arbitre tout le match pour lui dire ceci, cela, eh ben il faut un peu se détendre. Effectivement,
c'est
si on était allé
dès
le voir.
Que vous passez de l'autre côté, c'est-à-dire que dès que vous, arbitre, puisque c'est la mode.
Mais non, c'est
ce
pas
moment,
vrai. Là,
dès que vous, arbitre, vous passez sur les bandes de touche, vous êtes les plus exécrables parce que vous ne supportez pas les
touches. T'en as vu, il s'appelle Ruiz. Tu es en train de généraliser.
Ouais,
tout le monde n'est pas comme ça.
Tu dis
n'importe quoi.
Ouais.
En fait, vous ne voulez pas vous remettre en question. Et ça, je te l'ai déjà dit. Vous savez.
Mais ça, c'est faux. Ça nous regarde. Le joueur qui a fait une connerie le week-end d'après, il sera remplaçant ou hors groupe.
Parlons-en.
J'attends les nominations de M. Nouchi dans les semaines qui arrivent.
Parlons-en.
Est-ce qu'il sera puni? Imbuvable comme il était sur le terrain et comme il a été là à répondre en une demi-seconde.
Mais ça ne te regarde pas s'il est imbuvable, c'est pareil.
Pourquoi il répond pas? Je vais regarder les images.
S'il vous plaît, Yann et Benoît.
Ça l'importe à lui.
Benoît, moi j'entends ce que tu dis. Effectivement, l'aviron bayonnais a fait une mauvaise, la même deuxième mi-temps que la première. En tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'ils ont pas bien joué pendant 40 minutes laisser dire bon, mais ouais, ils ont pas bien joué, donc la faute. Non, à un moment, l'équité.
Il y a pas de souci.
Oui, mais le problème c'est que le match il est perdu sur une faute qui a pas été sifflée.
Ce que je reproche, c'est là de dire l'arbitre a mal géré sa fin de match, alors que c'est en premier l'aviron qui a mal géré sa deuxième mi-temps.
Mais quand l'arbitre il dit, j'ai pas voulu répondre à la pression des joueurs.
Sans
au secours.
Cette faute, on est devant.
Eh oui.
Okay. Alors garde le ballon.
Mais on peut pas garder le ballon.
Puisqu'ils font des fautes.
Non mais attends. Si tu gères mieux ton fin de match, tu dois pas jamais perdre ce match.
Mais les Parisiens n'ont pas à faire ces fautes.
Parisiens n'ont pas à faire ces fautes.
S'ils la font.
C'est pas l'arbitre qui dit.
Oui, mais l'arbitre, il était devant, il a les yeux sur le ballon et il dit rien. Alors le problème, il est là, quoi.
Après, vous êtes des grands donneurs de leçons en disant qu'il faut aider l'arbitre.
C'est pas des donneurs de leçons.
Captain Run, patati patata.
Ah non, mais moi, est-ce que tu m'as entendu dire ça?
Hier, par exemple, Monsieur Taïeb,
Captain Challenge.
Beaucoup de respect pour lui.
Je me fais taper dessus parce que là, on explose le timing. D'accord, ok. D'accord, ok.
Pour qui j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait pour l'aviron, il est très fort. Mais par contre, quand il s'agit de l'arbitrage, il faut que les présidents s'en mêlent, il faut que les arbitres s'en mêlent, il faut que tout le monde s'en mêle contre les arbitres. Par contre, quand il parle de son club qui gère à merveille, il dit une phrase très simple: le président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les supporters supportent. Mais va dans ta ligne de conduite, les arbitres arbitrent, donnons-leur les moyens, mais laissez-les tranquilles.
Mais les moyens, ils les ont, puisque la vidéo, elle existe.
Mais oui, mais il y a... Par exemple,
non, parce que s'il n'y avait pas la vidéo, comme il a dit Taïeb, l'essai de Tiberghien, elle était accordée. D'ailleurs, il a été accordé décision de terrain. La transformation, elle a été faite. C'était devant nous, puisqu'on était au stade.
Je ne dis pas.
Et que ça revienne. Ok, il y en a un avant.
Je ne dis
vidéo,
pas,
on vérifie. Le doute, il est venu 10 ans après la bataille, quand même. Là, le doute, en quart de seconde, il n'y a pas de doute. Ben, sur une fin de match où il y a une action litigieuse signalée par le capitaine d'une équipe, signalée par le capitaine d'une équipe qui dit. Est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe? Il demande à l'arbitre de vérifier la vidéo. Là, il dit, bah non, il n'y a rien.
Bon, hop, allez, c'est fini. Comme ça, je pense je pense très sincèrement, c'est facile sur le siège de le dire. Et je suis arbitre. Et Nuchin est au-dessus de moi.
Sièges, oui,
il faut me laisser parler.
C'est pas la première fois, quoi.
Pierre-Baptiste Nuchin, je suis en dessous de lui. Mais est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu que. Au vu du contexte du match où Bayonne fait un gros match à l'extérieur, a besoin de points, oui,
mais
c'est la fin de
la
saison.
Vidéo et on en parle plus.
Oui, mais c'est facile à dire comme ça. Oui, c'est la solution qui aurait peut-être été la
évidemment.
Mieux. C'est la solution qui aurait peut-être été la
mieux. Il y a un doute, tu prends la vidéo. S'il n'y a pas faute, s'il est accordé, Paris gagne.
Je suis entièrement d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord, mais je veux pas qu'on dise il faut se réfugier derrière ça. Il faut pas se réfugier derrière ça. Sur le terrain, il y a 3 équipes. Il y a les 15 contre les 15 et il y a une équipe d'arbitre. Oui. L'équipe d'arbitre, elle a le droit de faire des erreurs. Oui, cette erreur, elle est importante. C'est vrai.
Elle est plus qu'importante.
Juste, je finis là-dessus parce que.
Je te demande un truc.
Je te réponds.
Maxime Lucu, la semaine dernière, quand il qualifie pas pour une transformation son équipe pour aller à l'Europe, tout le monde lui a sauté dessus. Mais heureusement que non. Heureusement que non, quand il loupe la transformation.
Ça n'a rien à voir.
Mais si, ça a à voir.
Tu me parles de moyens. Moi, je te parle d'outils. L'outil sur cette action, ils l'ont.
Oui.
On se réfugie derrière.
C'est exactement ce que je viens de dire.
On se réfugie derrière. L'outil, il est là. Est-ce qu'ils s'en sont servis? Non.
Sur le coup, non.
Est-ce que ça change l'issue du match et le score? La réponse est oui. Donc tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, qu'on a mal lancé en touche, qu'on n'a pas géré, là. Il n'empêche qu'on est devant à ce moment-là. Et si tu utilises les outils que nous avons actuellement, il n'y a pas besoin de plus sur cette action-là. Il y a faute, fin du match, victoire de Bayonne.
Et l'argument de dire, Bayonne aurait pu se sauver avec une deuxième mi-temps mieux que ça. Bayonne a fait un très gros match à Pau, a été harcelé par la vidéo dans un sens, mais il n'y a pas eu le harcèlement en vidéo dans l'autre sens. Bon voilà, il y a aussi quand même une histoire de vue... De l'extérieur, des gens qui regardent les matchs. Et il n'y a pas que les Bayonnais qui les disent. Non, il n'y a pas que les Bayonnais qui les disent.
Bayonne au stade français, la dernière pénalité, ça ne vous a pas du tout choqué. Quand Gonzalo Quesada dans la gueule, vous êtes tous contents qu'il ait pris des points en moins.
Mais c'est trop répétitif qu'on ne demande pas la vidéo. Mais qui demande la vidéo alors? Qui demande la vidéo? Les arbitres.
Je peux juste pas te laisser dire que c'est Bayonnais le constat. Il y a qu'à voir le communiqué de l'arbitrage aujourd'hui. Il y a qu'à voir eu tous les débats qu'il y a eu.
Le communiqué.
On a plus le temps. Le
communiqué. Et à l'inverse de ce que dit Nucci.
Par rapport au match. Il vient par rapport à ce qu'a signalé l'arbitre sur la presse.
On va en reparler, mais c'est alors voilà évidemment la passion qui ressort et c'est. Faut pas s'énerver. Yann Blanchard, Benoît Caballero, on va continuer à parler de ça
hors
antenne. En tout cas, merci d'être avec nous sur France Bleu Pays
Basque.
100% rugby agité, l'arbitrage, ça déchaîne les passions. Merci d'être avec nous, on se retrouve dès demain.